Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le réseau FM+, si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous hebdomadaire sur le 91 MHz, si vous êtes sur l'agglomération Montpellier-Rennes, le 103.1 Radio Alliance Plus, sur l'agglomération Nîmoise et au-delà, parce que ça nous permet à travers les ondes de vous rejoindre là où vous êtes, ou bien à travers la, oui, Internet, la sphère incroyable de ces mystères de l'Internet, de la toile comme on dit, qui nous permet de ne pas se quitter. Ou encore, vous pouvez toujours aussi vous procurer l'application Android ou sur iPhone pour nous écouter quand vous voulez, en direct, et être des compagnons radiophoniques. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
On se retrouve toujours pour continuer ensemble autour du livre que vous avez écrit, Une voix nommée Jésus, l'évangile selon Thomas, donc livre qui a été édité aux éditions Dervy. Nous avons cheminé ensemble jusqu'à arriver la dernière fois à la thématique de sacrifice, famille, archétype. Mais avant de commencer ou reprendre notre élan ensemble, deux citations. La première, bon, c'est un peu vu les débats politiques aujourd'hui, c'est celle de Daniel Conflans qui dit « Quand les hommes politiques ouvrent leur parapluie, leur niveau de précipitation réformé devient nettement inférieur à la moyenne saisonnière. » Alors comme il y a le réchauffement climatique, je me dis « les parapluies ». Eh ben, ça ne permet pas de réformer. Et enfin, une qui se rapproche à notre thématique quotidienne ou hebdomadaire, c'est celle de Jean-Paul Sartre qui dit « Tu vois ce vide au-dessus de nos têtes ? C'est Dieu. Le silence, c'est Dieu. L'absence, c'est Dieu. Dieu, c'est la solitude des hommes. » Terrible, hein ?
Ah oui, 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 c'est une belle citation. Et comme nous allons parler de la famille, je pense aussi à une citation de Sartre qui dit « J'étais un enfant, ce monstre que les adultes fabriquent avec leurs regrets, vous voyez, à force de projection sur l'enfant. Et quand l'enfant est docile, eh bien, il devient monstrueux. » C'est dans les mots de Jean-Paul Sartre. Alors donc, nous allons parler principalement de la famille dans cette émission. Eh bien, il y a eu un refus de la famille, un détachement vis-à-vis d'elle, aussi bien dans les évangiles reçus, canoniques, que dans l'évangile apocryphe selon Thomas. Voici ce que l'on lit par exemple dans le Logion 99 de l'évangile selon Thomas. Les disciples lui dirent « Tes frères et ta mère se tiennent à l'extérieur ». Il leur dit « Ceux qui en ces lieux font le vouloir de mon Père, ceux-là sont mes frères et ma mère. Ce sont eux qui entreront dans le royaume de mon Père. » Alors bien évidemment, il y a une correspondance avec ce que dit l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 20 à 21. « On lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir ». Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Donc vous voyez, Jésus est très catégorique puisqu'il prêche une déliaison, en quelque sorte, un détachement total vis-à-vis des liens familiaux. Un autre passage que je crois j'avais cité dans une émission précédente, sur son passage, une femme dit à Jésus, heureux le sein qui t'a nourri et les mamelles que tu as sucées. Et Jésus répond au contraire, non, plus heureux sont ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Donc Jésus se prononce en bon juif pour une orthopraxie, c'est-à-dire il faut faire ce que l'on doit faire, et donc écouter les paroles du Père, et faire les commandements. Alors vous aviez fort justement remarqué, Redouane, dans une émission précédente, que cette haine, en quelque sorte, de la famille, puisque Luc emploie le mot « missein », haïr, haïr son père et sa mère, eh bien, elle s'oppose à ce que dit le premier testament, honore ton père et ta mère. Alors, quand on prêche là-dessus, Redouane, on doit être bien embarrassé.
Oh, ça dépend. Moi, ce que je trouve assez fort sur cette thématique-là, les deux textes que vous avez cités, à la fois celui de Marc et puis celui de l'évangile de Thomas, selon Thomas, parce que vous préférez qu'on dise
selon Thomas. Et c'est le texte de Luc. C'est le texte de Luc.
C'est que, en fait, on essaye d'enfermer dans ses déclarations Jésus dans un schéma clanique. Et il fait éclater ce schéma clanique. Le cercle est beaucoup plus large et beaucoup plus important de ce qui le lie, lui, à l'humanité. Et ça, ça me paraît important, parce que la filiation n'est pas seulement physiologique, elle est spirituelle.
Ah oui, là je suis tout à fait de votre avis. Les vrais enfants sont ceux à qui nous transmettons ce que nous savons, comme Jésus, avant de mourir dans l'évangile selon Thomas, transmet l'esprit, selon Jean, pardon. Oui, selon Jean, le texte grec dit « paredoken to pneuma », il transmet l'esprit, il ne meurt pas, il transmet l'esprit. Donc nos vrais enfants sont des enfants spirituels, ceux à qui nous avons transmis quelque chose. Quant à la famille, eh bien, en monde catholique romain, par exemple, on lui consacre une fête, la fête de la Sainte Famille. Alors, c'est assez contradictoire avec ce que nous venons de dire. Il est vrai que...
C'est drôle de famille quand même, parce que justement, quand on parle de mariage pour tous, etc., on peut dire c'est une mère porteuse, le père inconnu, ou du moins...
Tout à fait, nous y reviendrons à la fin de l'émission.
Mais voilà, c'est une manière, disons, les choses sérieuses sont toujours à traiter avec légèreté,
absolument.
Parce que c'est une manière d'aller encore plus loin.
Absolument. Alors c'est vrai que l'on fait l'éloge toujours de la famille. Au 19e siècle, il y a un roman d'Hector Malot qui s'appelle « Sans famille » où le héros est malheureux justement d'être orphelin. Mais après, le thème a été traité dans un tout autre sens. Jules Renard disait « Tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin », vous voyez. Et Gide dit dans « Les nourritures terrestres »« Famille, je vous hais, foyer clos, possession, porte refermée, possession jalouse du bonheur. » Vous voyez, donc voilà, pour Mauriac, c'est la famille est aussi un nœud de vipère, vous voyez. Bon,
les histoires de famille, c'est quelque chose.
Ah oui, tout à fait, c'est quelque chose. Et donc, Violette Nozière, par exemple, qui avait tué ses parents, est devenue une héroïne pour les surréalistes. Éluard disait, elle a tranché le nœud affreux des liens du sang, vous voyez.
C'est un peu la chose un peu loin.
oui, sûrement. C'est un film de Chabrol, avec Isabelle Huppert, sur Violette Nozière, vous voyez.
Mais c'est vrai que cette question, en fait, date de la nuit des temps. Le mythe d'Œdipe, on le voit, c'est de la relation filiale et quelque chose de compliqué. On n'a pas changé. L'humain a progressé, a évolué, et cependant, cette thématique reste perpétuelle.
Absolument, absolument. Alors, le texte de Luc pourrait nous laisser sur une impression très terrifiante de fanatisme, par exemple, puisqu'on nous dit qu'il faut haïr, Mycène, je répète, d'où misanthrope, il faut haïr son père et sa mère. Et alors, heureusement que l'évangile selon Thomas nous donne la clé de la question. Alors voici, je lis le Logion 101, et on y comprend ce qu'il faut entendre par récuser son père et sa mère. Voici ce que dit ce Logion. « Celui qui ne récuse son père et sa mère comme moi ne pourra devenir mon disciple. Et celui qui n'aime son père et sa mère comme moi ne pourra devenir mon disciple. Car ma mère m'a engendré, mais ma véritable mère m'a donné la vie. » Alors, tel que je viens de le lire, peut-être que les auditeurs ne comprendront pas ce dont il s'agit. Dans le texte écrit, édité, vous avez d'abord des minuscules pour père et mère qu'il faut haïr, mais il faut aussi aimer son père et sa mère avec des majuscules. Donc ça veut dire que nous sommes dans un tout autre niveau d'existence. Et quand Thomas dit ma mère, Jésus dit dans Thomas, ma mère m'a engendré. Donc là, c'est ma mère biologique, hein, ma mère de sang, hein. Mais ma véritable mère m'a donné la vie. Alors là, vous avez une majuscule, vous voyez, hein. Donc c'est vrai que les liens du sang ne sont pas grand-chose. Je crois que dans le prologue de l'évangile de Jean, il en est de même, hein. Donc à tous ceux qui l'ont reçu la parole, tous ceux qui ont reçu le verbe, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu, hein. Ceux qui sont nés non du sang, hein, non du sang, non de la matrice biologique, hein, mais de l'esprit, hein, ayant écouté le verbe. Alors, il y a deux parents. Il y a le père et la mère réels, biologiques, si vous voulez, et puis il y a les parents archétypaux, que j'appellerais archétypaux, c'est-à-dire les parents idéaux, hein, ou idéalisés, que finalement, dont chacun a en soi un modèle ou une image, hein. Alors, s'il faut récuser ou haïr son père et sa mère réels, il faut aimer son père et sa mère archétypaux, hein. Alors, qu'est-ce à dire ? Parce que finalement, l'archétype, c'est une image, une grande image qui structure l'inconscient collectif, comme Jung l'a montré, et qui existe dans l'âme de tout être humain, même ceux qui sont orphelins, vous voyez, hein. C'est le père et la mère tels qu'on peut les imaginer. Par exemple, dans la pièce de Jean Giraudoux qui s'appelle Électre, qui est reprise du mythe antique, hein, eh bien Giraudoux écrit « Électre cherche sa mère dans sa mère ». Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans sa mère réelle, Clytemnestre, qu'elle déteste, qu'elle hait, puisqu'elle est responsable de la mort du père d'Électre, Agamemnon, hein, bon, elle cherche une mère idéale. Alors le problème c'est qu'elle ne peut pas la trouver, mais elle cherche toujours cette mère archétypale. Alors chercher sa mère dans sa mère, c'est comme nous l'avons dit à plusieurs reprises dans nos émissions, une antanaclase, c'est-à-dire une figure de style qui consiste à faire miroiter un mot pour lui affecter dans chaque occurrence un sens différent. Donc dans sa mère réelle, elle cherche sa mère idéale, antanaclasis, hein. C'est en grec, ça veut dire reflet. Visuel, écho sonore. En latin, vous auriez réverbération, hein, vous voyez? Bon, antanaclase. Et c'est l'archétype stylistique majeur de tout l'évangile selon Thomas. Alors, ainsi, ce qui chez Luc pouvait nous paraître une parole abrupte, potentiellement fanatisante, hein, récuser les liens du sang, puisqu'elle appelait cette parole à une rupture totale avec ses liens, eh bien, dans l'évangile selon Thomas, cette formule est complétée et éclairé, hein, par une réflexion qui invite à prendre en compte le vaste domaine des archétypes.
de retour sur la longueur d'onde 91 MHz si vous êtes sur l'agglomération Montpellier, Rennes, Radio FM Plus ou bien Radio Alliance Plus sur le 103.1, agglomération nîmoise, des mots pour le dire, une voix nommée Jésus, l'évangile selon Thomas. Et nous abordons la deuxième partie de notre émission, toujours avec Michel Théron, sacrifice, famille, archétype. C'est une drôle de trilogie là.
Oui, mais alors le sacrifice, nous l'avons traité dans l'émission précédente, hein, dont nous ne parlons maintenant que de la famille et des archétypes. Donc je répète que dans l'inconscient, qui est à la fois individuel et collectif pour Jung, hein, il y a eu récemment sur Arte une rediffusion d'un film sur Jung qui s'appelait Dangerous Method, je prononce très mal, hein, sur l'opposition de Freud et Jung. Hein, voilà. Pour Jung, finalement, l'archétype structure la psyché humaine, quelle soit. Hein. Alors, que signifie l'archétype du père et que signifie l'archétype de la mère? Il me semble, hein, que le père traditionnellement incarne la loi. Hein. Alors il y a un calembour de Jacques Lacan, le père repère. Hein. Bon, c'est le père qui donne à l'enfant des repères sur ce qu'il doit faire dans la vie. Et la mère, au contraire, incarnerait l'accueil inconditionnel, vous voyez. Hein. Par exemple, quand un enfant se drogue, eh bien, la mère compatit et l'accompagne dans sa détresse, tandis que le père doit dire non, il ne faut pas le faire. Alors je m'empresse de dire aujourd'hui qu'avec les familles recomposées, et surtout les familles monoparentales, eh bien cela peut ne pas être le cas. Hein. Et donc la mère doit devoir, si elle garde l'enfant, incarner les deux rôles, si vous voulez. Hein. Mais il est vrai qu'aujourd'hui il y a un effacement, je ne sais pas votre avis Redouane, un effacement progressif de l'image du père. Hein. Un retour au désir de blottissement dans la matrice. Hein. Vous avez les deux films de Luc Besson qui incarnent cela, hein. Le Grand Bleu et Nikita. Hein. Dans Le Grand Bleu, c'est un blottissement, un apnée, hein, dans les profondeurs de la matrice. Et puis dans Nikita, cette jeune femme qui bascule dans la délinquance, c'est parce que elle n'a pas eu l'image structurante du père incarnant la loi pour justement la faire tenir debout dans la vie. Je vous vois être dubitatif, Redouane, oui, sur le père.
En fait, on est dans une société en mutation aujourd'hui. La chose qu'on peut dire, c'est que pendant très longtemps, les deux figures, la figure du père, la figure de la mère, ont été parfois sclérosants. Je trouve.
Ah oui.
Là, on est dans une mutation, c'est-à-dire le père est aussi celui qui peut manifester son affect. On peut venir se blottir contre son père pendant très longtemps. C'était surtout pas. Il y a une sorte de froideur qui poussait à un certain machisme. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Et aujourd'hui, on est dans une mutation qui effectivement a besoin d'un temps de transition. Et comme ces temps de transition, ça reste des temps de fragilité, donc quel est le rôle du père, quel est le rôle de la mère, les deux travaillent pendant très longtemps, c'était pas le cas, donc c'est vrai que les lignes bougent et petit à petit on va être amené à revoir un peu nos projections.
Ah ben, je vous écoute, je voudrais bien que ce soit le cas, donc c'est le papa poule un peu, hein. C'est le papa dans Trois hommes et un couffin dans le film.
Justement, c'est plus le papa poule, c'est autre chose, parce que avant on considérait papa poule celui qui n'était pas dans son rôle. Et là, le rôle change fondamentalement. Avant, c'était l'argent de poche. Moi, quand j'étais jeune, c'était mon papa qui me le donnait. Aujourd'hui, c'est pas toujours le papa qui donne l'argent de poche. Ça peut être la maman, puisque elle aussi a une activité professionnelle, sociale. Donc, tout ça, c'est vrai que nous amène, mais ça n'empêche que la question que vous posez, que pose l'évangile selon Thomas sur la question du père et de la mère avec un grand P, avec voilà, un grand M, est très important.
Absolument. De toute façon, on sait que tout jeune arbre a besoin d'un tuteur pour bien pousser. Hein. Donc, tous les jardiniers vous le diront. Donc, l'enfant a besoin d'un appui. Hein. Alors, je dirais que le père et la mère sont comme deux cariatides qui soutiennent l'enfant balcon. Vous savez, ces balcons soutenus par des figures sculptées qu'on appelle des cariatides. Hein. Et ces images parentales archétypales, elles ne sont pas forcément données par l'expérience, mais elles existent antérieurement à elles, pourrait-on dire, et elles constituent des formes a priori de tout imaginaire humain. J'ai dit tout à l'heure que des orphelins même pouvaient sentir en eux l'existence de ces images. Et aussi des enfants martyrisés par leurs parents, vous voyez, hein. Et c'est d'ailleurs ce qui rend ce cas très difficile à résoudre, parce que l'enfant battu continue d'aimer ses parents, non pas bien sûr les parents qui le battent, hein, qui sont des parents indignes, hein, parce qu'ils sont ses parents réels, mais ses parents et ses mères qui appartiennent aux archétypes, hein, les archétypes principaux ou instituants, hein, en sorte que soustraire l'enfant battu à sa famille réelle peut poser des problèmes. Alors parfois, bien sûr, c'est nécessaire. Le placement ailleurs, hein, là, toutes les assistantes sociales nous le diront, tout l'appareil judiciaire le dit. Hein. Bon, c'est nécessaire, mais cela ne va pas sans, comment dire, arrachement, hein, parce que l'enfant est quand même attaché à ce rôle que devraient jouer les parents. Hein. Donc, finalement, on a vu que dans l'Évangile selon Thomas, il y a un éloge de l'état d'enfance dans le Logion 22. Par exemple, hein, eh bien, c'est précisément dans l'enfance, je dirais, que les êtres correspondent encore à leurs archétypes définitionnels, dont on a une, en quelque sorte une préexistence ontologique. C'est dans l'enfance que le père, avec un petit P, et le père avec un grand P, et pareillement pour la mère, hein, parce que l'enfant a une image embellissante, grandissante des parents. Tout change après à l'adolescence. Hein. Voyez ce que dit Baudelaire, hein, « Comme vous êtes loin, paradis parfumé, où tout ce que l'on aime est digne d'être aimé. Hein. » C'est dans « Maesta et Terrabunda », un poème des fleurs du mal. Donc dans l'enfance, les archétypes du père et de la mère existent encore. Hein. Et après, tout se dégrade. Et le regard de l'enfant qui était admirateur et donc, je dirais, hyperbolique. Hyperbole, ça veut dire exagération. Hein. Donc c'est un regard magnifiant, le regard de l'enfant, qui, justement, affecte une valeur archétypale à tout ce qu'il voit. C'est un regard, comme on dit en photographie, vous savez, Redouane, que je fais aussi de la photographie, hein, c'est un regard en contre-plongée, c'est-à-dire de bas en haut. Hein. C'est vrai que l'enfant étant petit, il voit ses parents comme des géants, hein, et principalement son père. Hein, il le voit, voilà. Ensuite, l'enfant grandit, devient adolescent. Et alors, surtout maintenant, ce que nous voyons dans les générations actuelles, les adolescents dépassent en stature, hein, en taille, très souvent leurs parents. Hein. Et alors, au regard magnifiant, regard hyperbolique, exagérant, tout ce que vous voudrez, de la contre-plongée, va succéder un regard en plongée. Un regard en plongée en photo, c'est quand on se situe en haut du sujet, et en photographie, de haut en bas. Et alors, c'est un regard méprisant. Regardez ce que veut dire l'expression « regarder de haut ». Il m'a regardé de haut, ça veut dire il m'a méprisé, vous voyez, hein. C'est un regard, alors en latin c'est despicere, hein, qui veut dire regarder de haut et puis mépriser. Et alors, vous savez, mon père, ce héros au sourire si doux, comme disait Victor Hugo, devient alors, pour reprendre un vers parodique de Georges Fourest, hein, mon père, ce zéro au sourire de Saint-Doux, disait Fourest, vous voyez. Donc, on n'y peut rien. Vous et moi avons eu des enfants, en avons, hein, bon, ce regard de l'adolescent, voir son père non plus comme un géant protecteur, une figure tutélaire, mais comme un être comme tout le monde, c'est une phase difficile à accepter de la part des parents. Dans Antigone de Jean Anouilh, Aimon, le fils de Créon, à un moment voit que son père n'est pas tout puissant. Et alors, il lui dit, mais j'ai besoin de t'admirer, j'ai besoin de savoir que tu sais tout, que tu peux tout, hein. Et maintenant, je vois tout nu, en quelque sorte, c'est ce qu'il dit. Eh bien, Créon répond, ben c'est ça, grandir, c'est voir son père tel qu'il est, tout nu. Hein. On dit aussi, le roi est nu, si vous voulez. Hein. Voilà, alors l'adolescent est voué à la solitude. Hein. Alors, peut-être qu'après tout change, je ne sais pas, Redouane, après, quand l'adolescent devient lui-même parent, hein, alors à ce moment-là, il est confronté au même problème et il pourra de nouveau voir ses parents autrement. Mais c'est vrai que cette crise de l'adolescence est une crise un passage d'un regard amplificateur à un regard méprisant. Et alors, vous savez que ma formation est celle d'un professeur de lettres, Redouane, et donc cette opposition, c'est celle de l'épopée comme genre littéraire où tout est grandi, vous voyez, La Légende des siècles de Victor Hugo, Les arbres touchent le ciel, etc. C'est le passage de l'épopée à la forme du roman. Le roman, c'est la forme de la virilité mûrie, comme le dit George Lukács dans La théorie du roman, c'est-à-dire que les illusions s'y voient détruites. Le premier grand roman occidental, c'est Don Quichotte. Don Quichotte s'aperçoit que la réalité ne correspond pas au livre de chevalerie qui avait bercé sa jeunesse, si vous voulez. Hein. Bon, et alors de Don Quichotte à Madame Bovary, vous avez de Flaubert le même désenchantement. Donc dans l'épopée, tout est grandi et magnifié, et dans le roman, les illusions se perdent. On pleure parfois ces illusions avec autant de tristesse que les morts. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, nous faisons souvent des excursus, si vous voulez, dans nos émissions, des parenthèses. Je pense que tout se tient dans un sujet, hein, qu'il ne faut pas le borner. Hein. Après tout, nous pouvons très bien introduire des réflexions artistiques ou littéraires dans une démarche strictement théologique. Alors, je remercie, moi, l'Évangile selon Thomas, de nous permettre de conjurer cette dégradation dont j'ai parlé, et de retrouver les archétypes fondateurs auxquels l'adulte, par retour à lui-même, pourra à nouveau se réunir. Alors, comment définir un homme adulte, Redouane ? Vous savez, c'est pas traverser l'Atlantique ou le Pacifique à la rame, hein. C'est pas, bon, escalader l'Everest, hein. Non, ça est adulte, à mon avis, celui qui peut pardonner la déception inévitable que lui donnent ses parents réels par rattachement à l'image idéale qu'il a cru étant enfant, vous voyez, hein. Donc, il faut être adulte, c'est pardonner à ses parents, hein. Je crois, hein. On peut l'espérer, tout. Nous pouvons l'espérer, voilà. Alors notez le cas de Cendrillon, par exemple. Cendrillon est persécutée, c'est la fille des cendres. Cinderella, elle est dans le foyer, elle doit nettoyer les cendres. Donc, ce sont ses deux sœurs, je crois, qui la persécutent. Et alors, d'où est-ce qu'elle va tirer sa force? Elle va tirer sa force du fait d'aller pleurer sur la tombe où réside sa mère morte. Hein. Et le souvenir de sa mère morte, le fait de penser à elle, les pleurs que ça lui arrache vont justement la fortifier. Et c'est cette remémoration qui va permettre à Cendrillon d'avancer dans la vie, de triompher des avanies et des épreuves présentes qui lui sont imposées par sa marâtre. Hein. Et sa mère évanouie, puisqu'elle est morte, elle va s'épanouir à l'intérieur d'elle-même. Et elle va devenir la grande mère qui sera protectrice et tutélaire, hein. Et alors pour elle, justement, sa mère, ça sera pas sa marâtre, mais le souvenir de sa mère. Alors, par parenthèse, je noterai l'importance qu'il y a, au moins en milieu catholique, vous me direz ce qu'il en est en milieu protestant, pour Redouane, pour un enfant, d'avoir un parrain et une marraine. Hein. Alors, en milieu catholique, moi, on m'a appris que la fonction du parrain et de la marraine, c'était de garantir la foi de l'enfant lors du baptême. Hein. Et plus tard, l'enfant devra réitérer cette foi lorsqu'il sera en âge de penser, hein, lorsqu'il aura ce qu'on dit l'âge de raison, lors du sacrement de la confirmation. Hein. Alors, je ne sais pas s'il en est de même en milieu protestant. Est-ce qu'il y a des parrains, marraines?
Oui, il y a des paramarraines. Oui,
paramarraines,
oui,
voilà.
Qui ont la responsabilité de suppléer les parents en cas de besoin et d'accompagnement dans l'éveil catéchétique aussi.
Et ils sont au baptême, c'est eux qui...
Ils sont présents, oui.
Ils sont présents au baptême.
Oui, oui.
Ils s'engagent pour l'enfant.
Oui, oui.
Alors, moi, j'arrache ce thème à sa dimension religieuse, et je vois dans le parrain et la marraine les pères et mères idéaux ou divins. Hein. En anglais, parrain se dit Godfather et marraine se dit Godmother, c'est-à-dire père divin, mère divine. Hein. Et au contact du parrain et de la marraine, par la force des choses, l'enfant ne vit pas, hein, à la différence de ses parents réels. Hein. Alors l'enfant, puisqu'il ne vit pas au contact de son parrain et de sa marraine, il peut penser à eux de loin et donc les embellir, comme le dit le proverbe latin, maior et longincor et urentia, c'est-à-dire le respect augmente avec la distance. Mais quand l'enfant vit au contact réel de son père et de sa mère, il ne peut pas voir, il ne peut pas ne pas voir ses imperfections, vous voyez. Donc il est très utile, je répète que je laisse la fonction religieuse du parrain et de la marraine de côté, il est très utile pour l'enfant d'avoir un parrain ou une marraine, parce qu'il peut y penser de loin, et il peut, ce parrain et cette marraine peuvent avoir la valeur des archétypes. Vous savez, j'aime bien, vous le savez, Redouane, inverser les proverbes. Hein. Alors, il y a des proverbes en français qui nous disent, par exemple, « loin des yeux, loin du cœur », ou bien « les absents ont toujours tort ». Mais moi, je les inverse, ces proverbes. Je dirais « loin des yeux, près du cœur », vous voyez, hein. Et je dirais aussi « les absents ont toujours raison ». Vous voyez, hein, voilà, je vous ai dit peut-être l'anecdote que j'avais un étudiant, un hypocagne qui était toujours en retard ou des fois ne venait pas au cours, et une fois, je dis vous avez été absent, et une fois cet étudiant m'avait dit, monsieur vous avez dit que les absents ont toujours raison, vous voyez, donc il était très impertinent et pertinent à la fois, vous voyez, bon. Donc, comme le parrain et la marraine sont loin, eh bien, on les admire. Et je me situe dans une perspective strictement empiriste. Les empiristes sont des utilitaristes. Et ils disent, par exemple, dans la tradition anglaise, la vérité du pudding, c'est qu'on le mange. Alors moi, je dirais que la vérité du parrain et de la marraine, c'est qu'ils nous sont utiles.
Ah, j'ai cru que j'allais dire qu'on sait qu'on les mange. Et on va tomber dans le cannibalisme.
Oui. Non, ils nous sont utiles, hein, psychologiquement. Hein. Pour le dernier point sur cette question, pour l'expression qui clôt le logion 101 de l'Évangile selon Thomas, « ma véritable mère m'a donné la vie », on pourrait penser que cette mère, c'est l'esprit. Puisque en hébreu, ruach, hein, le souffle, l'esprit, est un mot féminin. Hein. Et on comprend pourquoi l'évangile de Jean dit que l'homme doit naître de l'esprit ou du souffle, hein, comme s'il s'agissait de sa mère éternelle. Voici ce que dit l'évangile de Jean, c'est la réponse de Jésus à Nicodème au début de cet évangile. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né du souffle. Né du souffle, s'il est né de la ruach, hein, de la ruach, eh bien, il est né de sa mère éternelle. Malheureusement, en grec, pneuma, c'est neutre, et en latin, spiritus, c'est masculin. Bon, mais pour le monde hébreu, hein, le souffle de Dieu, hein, est féminin, donc c'est la mère. Et comme j'aime bien comparer l'évangile selon Thomas avec les autres traditions spirituelles de l'humanité, j'ai parlé du taoïsme, et bien dans le taoïsme, Lao Tzu, par exemple, fondateur du taoïsme, se comparait à un enfant qui tète la mère, cette mère qui nourrit tous les êtres. Pareillement, dans l'évangile selon Thomas, au début du logion 22, Jésus voit des petits qui tête, voilà, têter la mère, hein. Eh bien, nous devons nous modeler sur ces enfants qui têtent la mère. Donc le maternage ici est l'essentiel, et cette orientation est remarquable dans une société à dominante masculine. Quant au Tao, c'est-à-dire la voix, Tao Te King, le livre de la voix de la vertu, Lao Tzu nous dit que le Tao, c'est la mère de l'univers. Hein. C'est le chapitre 20 du Tao Te King. Hein. Et là, il y a évidemment, entre l'évangile selon Thomas et le taoïsme, un fond commun qui transcende toutes les cultures.